VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Ruben Orsil et Saloa Jafari, bonsoir à tous. Bienvenue à l'édition du lundi 9 mars 2015. À la une ce soir, Saloa.
Le Niger et le Tchad à l'assaut de Boko Haram. Les deux armées viennent de reprendre la ville de Damasak. Une défaite cuisante pour le groupe qui vient de prêter allégeance à l'État islamique.
Le Mali en deuil après une fin de semaine particulièrement violente. La dernière attaque date d'hier. Un camp de l'ONU à Kidal a été pilonné par une trentaine de tirs.
Le gouvernement promet de traquer les coupables. L'enquête est ouverte. La France envoie ses enquêteurs.
Et la marche de l'armée irakienne vers la reconquête de la ville de Tikrit se poursuit. Le chef d'état-major interarmes des États-Unis en visite à Bagdad.
L'OTAN préoccupée par la militarisation de la Crimée, la péninsule ukrainienne a été annexée par la Russie l'an dernier.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En ouverture de ce journal, Boko Haram dans le collimateur. Le groupe, nous vous l'annoncions hier, vient de prêter allégeance à l'État islamique. Les armées nigériennes et tchadiennes n'en sont que plus déterminées. Les forces alliées ont repris la ville de Damasat aujourd'hui, selon une source sécuritaire tchadienne. Boko Haram a essuyé de lourdes pertes. Les détails avec Michel Joseph.
La prise de Damasak, à environ 10 km de la frontière nigérienne, constitue le premier succès majeur de cette offensive conjointe. Une source militaire tchadienne que cite l'agence Reuters fait aussi état de la reconquête de la localité de Malam Fatouri sur la frontière. Côté bilan, diverses sources font état de moins 200 militants islamistes tués, de même que 10 morts et 20 blessés parmi les soldats tchadiens. Des chiffres qui n'ont pas été confirmés de sources indépendantes. L'offensive en cours s'opère avec le feu vert du Nigeria, a tenu à préciser le général Chris Olukolade, porte-parole militaire nigérian.
Nous estimons que tout ce qui se déroule en ce moment se fait de concert avec ce que nous faisons pour chasser les terroristes.
L'offensive a commencé au lendemain de l'annonce par le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, de son allégeance au groupe État islamique, un développement sans aucune importance pour l'armée nigériane, a déclaré le général Olukolade.
Cela n'a aucune signification pour nous. Notre opération en vue de les chasser du Nigeria se poursuivra.
L'armée nigériane tente de reconquérir les zones sous contrôle de Boko Haram en vue d'y permettre la tenue des élections générales prévues le mois dernier, mais reportées au 28 mars.
Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue demain à Bangui pour une visite de 36 heures en République centrafricaine. Des rencontres sont prévues avec les autorités de la transition, les hauts responsables de la mission de l'ONU ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales. Pour en savoir plus, Félix Yepassis Zembrou a joint le porte-parole de la MINUSCA, Amadoune Touré.
C'est une visite dans un pays qui est en train d'essayer de sortir d'une crise profonde, mais également une mission qui a commencé à travailler il y a 6 mois. Donc une visite aux autorités centrafricaines, mais aussi à la mission qui est sur le terrain ici, que le Conseil de sécurité a déployée ici, et à laquelle il a confié 3 missions principales, à savoir la protection des civils, l'accompagnement du processus politique, mais également l'appui à l'extension de l'autorité de l'État sur tout le territoire. Oui. Donc c'est une visite à double niveau, voir un peu ce que les autorités centrafricaines sont en train de faire, mais également le travail d'accompagnement de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique.
Cette délégation aura-t-elle l'occasion de discuter avec les autorités de la transition du problème de sécurité, enfin de justice?
Vous savez, c'est le Conseil de sécurité lui-même qui a les prérogatives de son agenda et du contenu de ses discussions. Des rencontres sont prévues naturellement avec les autorités centrafricaines, notamment avec la chef de l'État de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, et bien sûr le CNT, c'est-à-dire le Conseil national de transition, qui sert de parlement en ce moment.
Le porte-parole de la MINUSCA en RCA, Amadoune Touré.
Le principal opposant burundais, Hussein Rajabu, qui s'est échappé de sa cellule la semaine dernière, a donné un entretien exclusif au service Swahili de la VOA, appelant le président Pierre Nkurunziza à libérer tous les prisonniers politiques et ouvrir à tous les secteurs la participation au prochain scrutin.
Hussein Rajabu affirme que ses ennuis avec le président Nkurunziza sont le résultat d'accusations sans fondement portées contre lui après qu'il s'est opposé aux efforts du président d'usurper des pouvoirs illimités.
Il est, dit-il, le seul homme politique burundais à être si sévèrement puni pour des raisons politiques, malgré plusieurs événements traumatiques dans le pays, y compris le meurtre de l'ancien président Melchior Ndadaye et les combats qui ont fait des milliers de morts et contraint davantage de Burundais à l'exil.
Mimi ndiye mwanasiasa wa pekee ambaye ameweza kupata adhabu.
Hussein Rajabo soutient qu'il ne s'est pas évadé, mais a pu recouvrer la liberté grâce à l'aide de certains amis. Il était condamné à 13 ans de prison au Burundi.
Au lendemain d'un attentat meurtrier qui a touché Bamako, c'est un camp de l'ONU à Kidal, bastion de la rébellion, qui a été hier la cible de tirs de roquettes et d'obus. Une trentaine de tirs, bilan un mort parmi les soldats, une dizaine de blessés. Ces tirs ont également tué deux enfants, selon la MINUSMA. Le gouvernement malien promet de ne pas céder à la peur et de punir les responsables. Les explications de Claire Moingibourg.
Nous sommes debout. Ce sont les mots du président Ibrahim Boubacar Keïta en réponse à cette nouvelle attaque sanglante. Les auteurs ont échoué et ils échoueront à créer la peur, a-t-il ajouté. Pourtant, c'est indéniablement une atmosphère d'appréhension palpable qui règne dans la capitale après un week-end particulièrement violent. Rappelons qu'un autre attentat avait été perpétré au cœur de la capitale dans la nuit de vendredi. 5 personnes, dont 3 occidentaux, avaient été abattues par un commando armé qui a attaqué un restaurant d'une rue très animée de Bamako. Une attaque revendiquée par Al-Morabitoun, le groupe djihadiste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. La chasse aux responsables est en tout cas ouverte. L'enquête est lancée. Une magistrate de la section antiterroriste du parquet de Paris, accompagnée de 10 policiers français, est arrivée dans la nuit d'hier à Bamako pour participer à l'enquête. De son côté, le gouvernement presse la rébellion à dominante Touareg du nord du pays de paraffer l'accord de paix déjà signé le 1er mars à Alger par le camp gouvernemental afin qu'il constitue une base réelle pour la stabilisation du pays.
En Libye, 4 Philippins et 5 autres étrangers ont été enlevés lors d'une attaque contre le champ pétrolier Al Ghani, situé dans le sud du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en Irak, le général Martin Dempsey, le plus haut gradé américain, est arrivé aujourd'hui à Bagdad pour s'entretenir avec les responsables irakiens après le lancement d'une vaste offensive pour reprendre Tikrit au groupe État islamique, a constaté un journaliste de l'AFP.
Sur le terrain, le groupe extrémiste État islamique a exécuté 20 personnes qui voulaient s'engager dans une milice combattant les djihadistes dans la province de Kirkuk, ont indiqué aujourd'hui les autorités irakiennes. Leur mise à mort n'a pas pu être confirmée indépendamment, mais elle a été illustrée par une série de photos diffusées sur Internet.
Et puis les forces de sécurité de l'autorité palestinienne ont arrêté aujourd'hui des dizaines de membres du Hamas en Cisjordanie, ont indiqué les sources au sein du mouvement islamiste et de la sécurité de l'autorité. Une 60aine selon le Hamas, une 40aine selon l'autorité palestinienne. Aucune des deux parties n'a précisé la raison de ces arrestations.
Un groupe de 47 sénateurs républicains des États-Unis ont averti l'Iran aujourd'hui que tout accord conclu avec le président Barack Obama pourrait ne plus être valide après la fin de son mandat en janvier 2017. Sans l'approbation du Congrès, lit-on dans la lettre adressée au gouvernement iranien, l'accord actuellement en négociation entre l'Iran et le groupe 5+1 serait considéré comme une entente entre le président américain et le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Rien de plus. Les négociateurs ont jusqu'au 31 mars pour obtenir un accord politique et jusqu'au 1er juillet pour un accord définitif sur le nucléaire iranien.
En Ukraine, l'armée dénonce une violation grossière des accords de Minsk qui prévoient une trêve et le retrait des armées lourdes de la ligne de front dans l'est du pays. Selon l'AFP, l'armée affirme avoir subi une attaque à 10 km du port stratégique de Mariupol. Cette ville sous contrôle gouvernemental relie la voie terrestre la Russie et la Crimée, territoire ukrainien annexé par Moscou l'an dernier.
En parlant de la Crimée, l'OTAN s'inquiète de la militarisation de la péninsule. Selon le commandant des troupes de l'OTAN en Europe, Philippe Breedlove, cité par l'agence France-Presse, la Russie y a déployé des missiles de croisière couvrant toute la zone de la mer Noire.
Alors que le débat se poursuit aux États-Unis sur les tensions entre la communauté noire et les agents de l'ordre, un nouveau cas d'homicide vient d'être enregistré. Cette fois, c'est un adolescent de 19 ans, Tony Robinson, qui a été abattu dans le Wisconsin par un policier. Des manifestations ont eu lieu pendant le week-end à Madison, suivies d'une veillée aux chandelles.
Et savez-vous quel est le plus ancien ministre des Affaires étrangères dans le monde? C'est le prince Saoud Al-Faisal, âgé de 75 ans. Il dirige la diplomatie de son pays, l'Arabie Saoudite, depuis 40 ans. Et son palmarès ne va sûrement pas s'arrêter là, puisqu'il vient d'être reconduit à son poste. Le prince Faisal, qui a servi 4 monarques, a prêté serment aujourd'hui devant le roi Salman, au pouvoir à Riyad depuis le 23 janvier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Dans le cadre de la promotion des énergies non polluantes ce lundi matin, l'avion Solar Impulse 2 a décollé d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis pour faire le tour de la planète sans carburant. Le pilote suisse André Borschberg devait se diriger vers la capitale du Sultanat d'Oman en fin de journée, selon l'AFP. Industrie forestière en Afrique, les pays du bassin du Congo se doivent d'évoluer vers la transformation poussée des produits forestiers, selon la principale recommandation des travaux de la 31e session du comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique centrale, qui s'est achevée ce soir à Brazzaville. Conviés par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, les experts ont examiné les défis du secteur forestier pour en faire une véritable source d'industrialisation et de diversification de leurs exportations. Ils proposent aux partenaires au développement de créer les conditions pour une industrie de transformation par l'investissement dans les équipements, la formation et leur contribution au Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, le FEVAC. À ce propos, un commentaire de l'environnementaliste gabonais Marc Ona Essangui.
Si on met l'accent sur, par exemple, la pharmacie, la pharmacopée, qu'on va utiliser nos plantes pour développer les molécules qui vont soigner toute la planète, nous sommes bientôt 7 milliards. L'Afrique, avec ses molécules qui proviennent de nos forêts, peut devenir ce continent qui soigne le monde entier. Et je rappelle que l'essentiel des médicaments dans les pharmacies en Occident et autres sont issus des plantes qui viennent de chez nous.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie Barge.
Et nous passons tout de suite à notre page sport avec Timothée Dounangmaï. Salut Tim.
Bonsoir Gabi.
Commençons par le football africain chez les jeunes avec la CAN des moins de 20 ans qui se poursuit au Sénégal.
Et oui Gabi, le Ghana a défait ce soir l'Afrique du Sud, 1-0 dans le groupe B. La seconde rencontre de ce groupe met aux prises tout à l'heure le Mali et la Zambie. Hier dans le groupe A, le Nigeria a défait le pays hôte 3-1 et match nul, 1-0 entre la Côte d'Ivoire et le Congo.
Toujours en football africain, fin ce week-end du tour préliminaire de la Ligue des Champions avec la qualification des Gambiens du Real. Bonjour.
Après avoir obtenu un nul à l'aller, 1-0 sur sa pelouse, le club de la capitale gambienne a défait Barak Young Controllers du Liberia au retour par 1-0 pour avancer en 16e de finale. Real Banjul et les autres clubs qualifiés ont rejoint dans cette phase l'Espérance, le club sportif sfaxien Coton Sport, AC Léopard, Al Ahly en tant que sétif, tenant du titre, et le tout-puissant Mazembe. Nous reviendrons dans Sporama sur le tirage au sort des 16e de finale de la Ligue des champions d'Afrique.
Un mort au Maroc ce week-end suite à un match du Raja de Casablanca dans le centre du pays, Tim.
Selon les médias locaux que cite l'AFP, un homme d'une cinquantaine d'années est décédé à Kourikba après avoir été atteint par un fumigène samedi. Des heurts entre fans rivaux avaient éclaté après la victoire du Raja 1-0 contre le club local.
Et du nouveau dans l'affaire de dopage de l'ancien champion cycliste américain Lance Armstrong.
Un rapport publié aujourd'hui par une commission indépendante affirme qu'Armstrong n'aurait pas pu remporter 7 titres du Tour de France sans la complicité des hauts dirigeants du cyclisme international qui lui ont accordé un traitement préférentiel en ce qui concerne les tests antidopage. À plusieurs reprises, note le rapport, l'Union cycliste internationale n'a pas appliqué ses propres règles.
Et quelques résultats en basket?
Alors, Golden State a émergé victorieux 106 à 98 du derby Californie et interposé aux Clippers de Los Angeles. Belle contribution de Damon Green, auteur de 23 points et 6 passes décisives dans cette sixième victoire consécutive à domicile de Golden State.
Et San Antonio qui bat Chicago 116 à 105, ça, il faut quand même le signaler. Merci Timothée Donangmaï pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Romain Dorcy, les Salois Jafari en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Mali, où plusieurs attentats ont eu lieu ce week-end. En fait, c'était un week-end particulièrement sanglant, Salois.
Oui, à Kidal, une base de l'ONU a été la cible de tirs de roquettes, faisant 3 morts hier et la veille. Vous le savez, l'attentat dans le restaurant de la terrasse de Bamako a fait 5 morts, dont un Français, un Belge et 3 Maliens. Une enquête, une attaque revendiquée par le mouvement islamique Al-Mourabitoun, dont le leader est Mokhtar Al-Mokhtar, alias Khalid Aboul Abbas. Depuis, les autorités maliennes tentent de renforcer la sécurité dans la capitale malienne, la protection des personnes et leurs biens. Une enquête a été également ouverte pour retrouver les auteurs. De Bamako, le reportage de Kassim Traoré.
Les Bamakois, en apprenant cette nouvelle, n'étaient pas surpris, car il y a eu beaucoup de signaux avant ces crimes.
Nous voyons vraiment l'insécurité grandissante dans notre ville. Ça, c'est un truc vraiment qui fait extrêmement peur. Et nous demandons vraiment à l'autorité malienne vraiment de s'attendre pour essayer de mettre fin tout de suite à ça, vu l'état actuel du pays. Et si il faut que la ville sera, comment dirais-je, infiltrée par des djihadistes, ça fait peur, ça fait trop peur.
Cet attentat est le premier à Bamako depuis l'éclatement de la crise de 2012 au Mali.
Auparavant, on ne connaissait pas ce genre de situation. Vous voyez, et puis ils se suivent de façon simultanée. Là. À mon avis, c'est très simple. C'est à monsieur le président de s'assumer, de prendre des responsabilités ici pour que les personnes puissent se sentir dans la sécurité totale. C'est de renforcer encore une fois de plus la sécurité sur toute l'étendue du territoire national.
L'acte commis par des individus non identifiés pose la question de la véritable sécurisation de la capitale malienne, avec des forces de l'ordre qui souvent ne jouent pas pleinement leur rôle.
La lettre de Fouquet, comme on appelle ça, le comportement des agents de sécurité, ces gens-là, généralement, ils ne sont jamais concentrés. Généralement, on les voit, ils sont assis à prendre du thé ou l'âme en bas du l'air, ils ne suivent pas. On constate qu'ils n'ont pas vraiment une vraie formation, quoi. Une formation de véritables agents de sécurité ou de défense. C'est un soldat, il doit être toujours prêt à toute éventualité.
À la suite de cet attentat, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son premier ministre se sont rendus sur les lieux du crime. Ils ont aussi rendu visite aux blessés dans des hôpitaux de la capitale. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, l'heure est à la mobilisation. Shogel Kokala Maïga.
Je crois qu'aujourd'hui, la mobilisation des Maliennes et des Maliens est plus que jamais nécessaire. Nos forces de sécurité continuent leurs enquêtes. Le gouvernement ne se laissera ni distraire, ni impressionner, encore moins intimider par ceux qui se sont donnés à ces actes-là.
Le week-end passé a été noir au Mali, avec l'attentat à Bamako, les lynchages à Gao de 2 présumés poseurs d'explosifs et les 30 roquettes qui ont été lancées sur les camps de l'aménagement à Kidal occasionnant 3 morts dont un casque bleu. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le Cameroun vient de lancer un programme d'urgence de 8 millions de dollars pour la construction de 200 salles de classe, dortoirs et latrines pour 70 000 élèves déplacés par l'insurrection de Boko Haram. Ces écoles seront construites dans des localités plus sécurisées au Cameroun, loin de la région frontalière du Nigeria, où le groupe islamiste mène souvent des attaques. Muki Edwin Kinzeka a préparé ce reportage que nous présente Lionel Gaïma.
Les combattants de Boko Haram, venus du Nigeria, ont détruit 170 établissements scolaires le long de la frontière camerounaise, forçant les élèves à fuir vers des endroits plus sûrs, a indiqué le gouverneur de l'extrême nord, Mijiyawa Bakari. Cet afflux de nouveaux étudiants met à rude épreuve les capacités d'accueil des écoles non affectées par la guerre. D'où la nécessité d'en construire de nouvelles, dit le gouverneur Bakari.
Les opérateurs économiques qui ont une crédibilité pour que très rapidement, dans un délai de 40 jours, qu'ils puissent construire ces salles de classe, ces dortoirs, ces latrines et ces points d'eau pour permettre à ces élèves de continuer leur scolarité sans année croche.
L'homme d'affaires Nguyen Foncha est chargé de fournir l'électricité aux nouveaux habitants. Il dit que le gouvernement a facilité son travail en réduisant les goulets d'étranglement administratif dans le processus des passations des marchés.
Jusqu'à cette vendredi, tous les fouilles se seront faits. Et après une autre semaine, les poteaux seront debout. Et dans 3 semaines, je crois qu'on va commencer à dire, bon, on est à presque 80%.
L'armée camerounaise est présente sur les sites pour sécuriser les travaux. Si tout se passe comme prévu, les élèves déplacés, dont près de la moitié sont des enfants du cycle primaire, pourront bientôt être relocalisés. Le délégué à l'éducation de base dans l'extrême nord du Cameroun, Ibrahim Joël Mahamad, se montre confiant.
Il y a presque 33 000 élèves déplacés. Ce qui est sûr, au début du trimestre prochain, tous ces élèves-là seront assis quelque part et prendre les cours dans de très bonnes conditions.
Ces 33 000 enfants et jeunes qui ont dû abandonner leurs écoles font partie de 150 000 habitants ayant fui leur maison depuis le début des attaques de Boko Haram dans cette région du Cameroun.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Sur les 10 lauréates du prix américain Femmes de Courage, 2 africaines, toutes 2 francophones, la centrafricaine Béatrice Epay et l'infirmière guinéenne Marie-Claire Tchekola. Mère de 2 enfants, Madame Tchekola a contracté le virus Ebola en sauvant des vies au service des urgences de l'hôpital Kondonka à Conakry. Aussitôt guérie, elle est retournée prendre soin de ses patients. Nathalie Barge lui a tendu le micro lors de sa visite au département d'État ici à Washington. Elle raconte son calvaire.
Ce jour, j'étais de garde. J'ai pris la garde d'une collègue qui était malade. On a reçu une patiente et son accent nous a montré qu'elle n'était pas guinéenne. Elle a dit qu'elle n'a pas quitté la Guinée. Effectivement, qu'elle est Sierra Leonaise, elle est léonaise, mais elle n'a pas quitté la Guinée. Mais vous voyez, à l'époque, on ne connaissait pas bien cette maladie. On entendait parler, mais on n'était pas formé.
C'était en juillet
2014. Nous avons reçu la dame. Le médecin l'a examinée. Il a demandé un petit bilan. Après le résultat de ce petit bilan, il a demandé un traitement pour pouvoir arrêter au moins les vomissements et pouvoir l'accompagner là où elle devrait être hospitalisée. Donc c'est moi qui ai fait ce travail. Après le plan cadre, l'a accompagné là où se trouvait l'ambulance. Et l'ambulancier l'a envoyé là où elle devrait être couchée. Mais malheureusement, elle est décédée. Et la Croix-Rouge qui a été imprimée, qui connaissait mieux la maladie, ils sont vite venus voir s'acquérir des réalités. Ils ont trouvé qu'elle est morte par suite d'Ebola. C'est ainsi qu'ils ont cherché à connaître le trajet, le passage de la dame. Mais moi, c'est le 10e jour que j'ai senti une fatigue que je n'ai jamais eue dans ma vie. J'ai eu le mal de tête. Donc un soir, j'ai dit à ma fille, ça ne va pas, allons à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital. J'ai dormi aux urgences dans mon service. Le lendemain matin, on m'a envoyé en médecine, là où je devrais être hospitalisée. Donc j'ai passé la nuit aussi là-bas. Les médecins sans frontières, imprégnés de la situation, sont vite venus me demander « Ah, tu as reçu tel malade tel jour ?» J'ai dit oui. Ils me disent « Elle est décédée parce de Ebola. » On sait que ce qui est clair, toi aussi tu as contracté la maladie. Et mon médecin, la stagiaire qui était avec moi, et le laborantin qui est venu prélever, le blancardier qui est venu la prendre pour la mettre dans l'ambulance, le chauffeur de l'ambulancier pour l'envoyer à l'étage, et ceux qui l'ont reçu à l'étage.
Ont contracté la maladie
tous,
également.
Nous étions au nombre de 9.
Est-ce que vous avez tous guéri de la maladie?
Non, 3 n'ont pas survécu. 3 sont morts. 6 ont survécu.
Et après cela, vous avez repris le travail?
Après cela, je me suis dit, à quoi ça s'est resté à la maladie? C'est vrai, il y a eu la stigmatisation.
Oui.
Mais moi, ça n'a pas tellement pesé sur ma tête.
Voilà, c'était Marie-Claire Tchekola, co-lauréate du prix Femme Courage, membre de l'association des personnes guéries et affectées par le virus Ebola. Elle mène des actions de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation des survivants.
lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 257 35 83. Je répète, 1 202 257 35 83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés, VOA Afrique.
Et au lendemain de la Journée internationale de la femme, Eddie Isango fait parler celle qui est à l'origine de la conception des robots régulant la circulation automobile en RDC, l'ingénieure Thérèse Isa Kirangozi.
Sur la route, les gens voient un robot, mais il y a un centre de contrôle qui se trouve dans une place de la police, là où on voit à temps réel tout ce qui se passe autour du robot. Les jours, c'est à 200 mètres et la nuit, avec les infrarouges, nous poussons à peu près à 250 mètres.
Il s'agit des robots dotés des caméras et qui peuvent communiquer de façon limitée avec les usagers de la route. Thérèse Kirangozi explique que l'idée de fabriquer ces robots lui est venue d'une révolte. Elle avait en effet constaté que de nombreuses femmes qui, comme elle, ont étudié pour être ingénieures, finissaient parfois derrière des étalages des marchés à vendre des petits articles.
J'emmène des femmes, je les forme. Et puis je les laisse pour qu'elles volent avec leurs propres ailes. Nous avons à peu près 10 jeunes filles ingénieures que nous sommes en train de lancer par rapport au système de commande à distance.
Les soucis de Mme Kirangozi étaient premièrement de réduire le nombre des cas d'accidents sur les routes des grandes villes qui s'élargissent avec la modernisation, atteignant parfois 6 voies. Pour elle, faire bénéficier l'économie du pays des entrées qui peuvent permettre les routes était également un autre souci.
En Afrique, d'après le rapport de l'OMS, il y a 26 personnes qui meurent par heure en Afrique à cause des accidents de circulation routière. Le monde entier cherche toujours des solutions pour savoir comment on peut atténuer les cas des accidents en Afrique, surtout dans ma ville de Kinshasa, là où il y a une grande agglomération de plus de 10 millions d'habitants.
Avec une armature en aluminium, ces robots sont fabriqués par des femmes et des jeunes Congolais. Thérèse Kirangozi, qui s'était lancée dans l'aventure avec seulement l'appui de son mari il y a de cela 2 ans, commence un peu à sourire puisque le gouvernement en a commandé 30. Mais la conceptrice voit large et affirme être en négociation avec certains pays d'Afrique comme l'Angola, le Nigeria et la Côte d'Ivoire où les robots peuvent contribuer au développement et régler les problèmes communs à tous les continents relatifs à la route.
Il faut encourager les initiatives locales. C'est ça qui va créer. On ne peut pas attendre un étranger pour venir faire développer le pays parce que...
Selon elle, ces nouveaux robots seront aussi utiles à la sécurité car ils sont dotés des caméras de surveillance.
L'ingénieur Thérèse Isa Kirangozi au micro d'Eddie Isango.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le monde aujourd'hui à la une ce soir.
Le Niger et le Tchad à l'assaut de Boko Haram. Les deux armées viennent de reprendre la ville de Damasak. Une défaite cuisante pour le groupe qui vient de prêter allégeance à l'État islamique.
Le Mali en deuil après une fin de semaine particulièrement violente. La dernière attaque date d'hier. Un camp de l'ONU à Kidal a été pilonné par une trentaine de tirs.
Le gouvernement promet de traquer les coupables. L'enquête est ouverte. La France envoie ses enquêteurs.
La marche de l'armée irakienne vers la reconquête de la ville de Tikrit se poursuit. Le chef d'état-major interarmes des États-Unis en visite à Bagdad.
Et puis l'OTAN, préoccupée par la militarisation de la Crimée, la péninsule ukrainienne a été annexée par la Russie l'an dernier.
Et disons aussi que l'autorité palestinienne a arrêté aujourd'hui des dizaines de membres du Hamas en Cisjordanie, ont indiqué les sources au sein du mouvement islamiste et de la sécurité de l'autorité. Voilà.
Voilà pour le journal. À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma. À la console technique, Jean Dryden. Présentation, Salwa Jafari et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez en notre compagnie sur Facebook et aussi notre site internet voaafrique.com. Salut.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.